Chapitre 10.
ITC Tropicard. 16h01.
Martial hésite. Il devrait anticiper. Monter à la chambre, empiler des vêtements dans une valise. Les flics vont arriver, c'est certain maintenant. Il devrait crier à Sofa de sortir de la piscine, de foutre le camp. Prendre de l'avance, un minimum. Sofa s'amuse. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel, elle a trouvé des petits copains. Elle saute dans l'eau avec ses bouées d'Ora. Les autres gamins sont tous autour d'elle, comme une cour autour d'une reine. Sofa rit. Un blond, haut comme trois pommes, bronzé caramel, avec de longs cheveux qui lui tombent dans le dos, lui chuchote à l'oreille. Sofa l'éclabousse et éclate de rire. Un pincement serre le cœur de Martial. Ne pas s'attendrir, bouger, faire sortir Sofa de la piscine, fuir. Ne pas tout gâcher, pas maintenant.
La fourgonnette de gendarmerie, rue du Général de Gaulle, dévore le talus, écrasant les feuilles de veloutier et les fleurs mauves des patates à Durand. Moraes enfonce la pédale d'accélérateur. Les voitures qui arrivent en face se rangent en catastrophe sur le côté. Cette fois-ci, Aja a oublié toute diplomatie. Elle a organisé au plus vite l'interpellation de Martial Bélion, sacrifiant avec jubilation la quiétude de la station balnéaire et de l'Alamanda. Outre la fourgonnette de la BTA qui roule à tombeau ouvert vers l'hôtel, la capitaine a convoqué les collègues de la brigade de Saint-Paul et de Saint-Leu. Quatre autres véhicules, plus de 20 flics, convergent vers eux. L'objectif est de couper du monde Saint-Gilles, bloquer toutes les issues au cas où l'arrestation tournerait mal. Qui peut prévoir comment Bélion va réagir? Malgré les secousses, Aja, assise sur le fauteuil passager, relit une dernière fois les analyses du département scientifique de Saint-Denis. Les documents confirment que le sang recueilli par Christos sur les draps, la moquette, le lit, est celui de Liane Bélion. Les échantillons ont été comparés aux informations envoyées par le laboratoire Queffer de Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, celui où Liane Bélion effectuait ses prises de sang en métropole. Mais ce sont les résultats de l'examen du couteau retrouvé planté dans le ventre de Rodin, tombé il y a 15 minutes, qui ont déclenché le dispositif d'arrestation. Outre le sang du créole, la lame était souillée d'un autre, plus ancien, celui de Liane Bélion. Une arme, deux victimes, un coupable. Pour clarifier encore l'enquête, de belles empreintes digitales s'enroulaient autour du manche du couteau, celle de Martial Bélion. Moraes déclenche un nuage de poussière en braquant trop court, avenue de Bourbon. L'hôtel Alamanda se situe droit devant, entre l'aquapark et le quartier des bars de nuit. Aja regrette de ne pas avoir coffré Bélion hier, pendant qu'il l'a baratiné à la brigade. Deux agents ont passé la matinée à fouiller la déchetterie de l'Ermitage. Ils n'ont trouvé aucune trace des vêtements de Liane Bélion. C'est bien son cadavre que transportait Martial. Il lui donne l'impression d'un type dépassé par les événements, qui a sans doute poignardé sa femme sans préméditation, lors d'une dispute, une crise de jalousie, une poussée de colère, peut-être même à cause de la gosse. Puis, il a paniqué. Il a tué à nouveau un témoin gênant. Froidement, cette fois-ci. Dieu sait de quoi il est capable maintenant.
J'ai du mal à courir avec mes tongs. Papa serre ma main trop fort. Il va m'arracher le bras à tirer comme ça. Déjà, je voulais pas sortir de la piscine. Papa, ralentis, tu me fais mal.
Avance, Sofa.
Papa m'entraîne derrière l'hôtel vers le parking, là où est garée la voiture qu'on a pour les vacances. Papa, tu marches trop vite. J'ai perdu une tongue. Je l'ai fait un peu exprès, mais papa s'en fiche. Il continue de m'arracher l'épaule. Les graviers me rentrent dans les pieds. Je m'arrête, je hurle. Papa n'apprécie pas.
Sofa, avance, je t'en supplie.
Papa n'a pas crié. C'est bizarre, il parle presque doucement, comme s'il avait peur, comme si une armée d'ogres courait après nous. Sa grosse main écrase la mienne. Je suis obligée de suivre à cloche-pied. Je pleurniche autant que je peux, mais papa m'écoute plus. La voiture est là, 20 mètres devant nous. Papa l'ouvre avec la télécommande sans même ralentir. Le béton du parking m'arrache la peau des pieds. Je crie plus fort encore, je pique une colère comme je sais faire jusqu'à ce que papa lâche ma main. Il s'arrête d'un coup, enfin. C'est pas à cause de mes cris. Il regarde la voiture comme si on lui avait rayé la peinture, volé une roue ou le volant. La voix de papa tremble.
Vite, Sofa, monte.
Je ne bouge pas. Je suis intelligente, maman me le dit tout le temps. Je sais déjà lire presque tous les mots, comme ceux qui sont écrits dans la poussière de la vitre de la portière. Rendez-vous en des cascades demain, 16h, bien avec la fille. J'ai du mal à comprendre. Je voudrais relire les lettres encore une fois pour essayer de les comprendre, de les retenir au moins. J'ai pas le temps. Papa essuie presque tout de suite le message avec sa main. Ça laisse de grandes traînées sales.
Monte, Sofa, vite!
J'ai jamais entendu papa me parler avec une voix aussi sévère. J'ai un peu peur, mais j'obéis. Je grimpe à l'arrière sur le réhausseur. Pourquoi papa a-t-il effacé les mots comme si je ne devais pas les lire? Qui devait les lire alors? Qui les a écrits? Papa? Maman? Juste avant que le moteur démarre, j'entends des cris derrière nous. Aja entre la première dans le hall de l'hôtel Alamanda, suivie de Morez. Christos observe le mouvement à distance. Naïvo se redresse derrière son comptoir comme une peluche montée sur ressort. Il ne s'écoule pas 3 secondes avant qu'Armand Zutor ne surgisse à son tour. Le directeur roule des yeux médusés, les cheveux hérissés sur une tempe, collés sur l'autre, comme réveillé pendant sa sieste. Aja ne lui accorde pas un regard. Elle hurle ses ordres. Morez à l'étage, chambre 17. Christos avec moi dans le jardin. L'ascenseur s'ouvre. Ève-Marie s'époumonne. Ne marchez pas dans le mouillé! Les 3 salopards en rangers et uniformes ne l'écoutent pas et piétinent le carrelage. Les pas souillent le couloir en une bouillie de sable jusqu'à la porte 22. Prennent appui sur le mur immaculé d'en face, puis font voler la clenche d'un coup de semelle. La porte explose. Les pieds humides saccagent la moquette.
« Personne !»
hurle Morez dans le talkie-walkie.
« Il s'est envolé, capitaine !»«
Merde !»
jure Aja. Elle observe le jardin de l'hôtel. Devant elle, les touristes figés ressemblent à des poupées gonflables abandonnées au bord de la piscine. Sans même qu'elle n'ait à donner d'ordre, les gendarmes se dispersent, quadrillant l'espace de l'hôtel à la recherche du moindre espace pouvant fournir une cachette. Tous, sauf Christos. Appuyé sur le tronc d'un palmier, le sous-lieutenant se contente de fixer le bar et d'interroger Gabin du regard. Le serveur hausse les épaules, il fait la gueule comme s'il se demandait s'il n'allait pas changer de comptoir avec toutes ces conneries. Christos plisse le front, signe qu'il insiste. Gabin est plus fort en cocktail qu'en mime, mais il fait un effort. Il agite les bras. En étant indulgent, on peut y deviner l'imitation d'un papang, un rapace réunionnais, d'un tec-tec, un moineau réunionnais, d'un papillon peut-être. Quelque chose qui a des ailes en tout cas. Suffisant pour comprendre. Bélion s'est envolé.
Martial conduit vite. Il remonte l'avenue de Bourbon, puis la rue du Général de Gaulle. Saint-Gilles défile en un long ruban entre lagons et forêts. Pour sortir de la station, il doit rejoindre la Nationale tout en évitant le port qui le ramène droit sur la gendarmerie. Il n'a pas d'autre choix que de couper par les ruelles les lotissements dont 1 sur 2 se termine en impasse, comme autant de fausses pistes d'un labyrinthe. Encore 1 kilomètre entre les cases. Martial freine brutalement et étouffe un juron. La seule passerelle sur la ravine qui débouche sur la bretelle d'accès à la Nationale est bloquée. Un collier serré de voitures s'étire sur 200 mètres. Martial peste. Encombrement endémique ou barrage de flics à la sortie, peu importe. Impossible de se laisser piéger dans les embouteillages, il doit tenter de passer ailleurs. Demi-tour. Les pneus de la Clio crissent. Il s'engouffre à nouveau dans la rue de Bourbon, dans l'autre sens, puis brusquement, 300 mètres avant l'hôtel à l'Amanda, braque sur la droite. Le chemin de terre qui longe la plage de l'Ermitage pendant 2 kilomètres et praticable tant qu'il ne se retrouve pas face au train rouge des plages qui assure à une allure de tortue la liaison entre les accès au lagon. Le chemin rejoint, plein sud, la saline Les Bains. Martial se force à se convaincre qu'il dispose d'encore un peu d'avance sur les flics. Dans un nuage de poussière ocre, la Clio dépasse l'aquapark, les immeubles jumeaux du village de Corail, le mail de Rodrigue. Des vélos s'écartent, des familles qui attendent leur glace devant le camion ambulant, tous dans la poussière qu'ils soulèvent. Des types torse nus, serviettes sur le dos, l'insultent. Martial est conscient que sa fuite est tout sauf discrète. Il ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Il n'a pas le choix pourtant. Par la vitre baissée, le sable vole dans l'habitacle de la Clio. Sofa pleure à l'arrière.
« Ça me pique les yeux, papa !»
Martial remonte nerveusement la vitre. La logique serait de continuer à descendre droit vers le sud, en longeant la plage, traverser la Saline, atteindre la route de Saint-Pierre après la plage de Troudeau. Saint-Gilles se limite à un dédale de rues qui ne possède que trois issues. La nationale qui longe le littoral, au nord et au sud, et la départementale 100 qui monte vers les hauts. Le retour au bitume lui permet d'accélérer encore. La plage et sa foule métissée se dévoilent en pointillés entre les troncs tordus. Les fils à eau de l'Ermitage défilent comme des poteaux télégraphiques. Ça passera par le sud, se force à espérer Martial.
« Papa, roule moins vite !»
Dans le rétroviseur intérieur, il voit Sofa accrochée à la ceinture de sécurité, terrifiée, comme si son père était un étranger la conduisant en enfer. L'aiguille du cadran monte encore. Soudain, un gamin surgit de l'entrée d'une villa. 6 ans, pieds nus, planche de bodyboard sous le bras. Il se fige comme un lapin ébloui. Martial écrase la pédale de frein. Sofa hurle. Le gamin détale et disparaît dans la cour derrière le Guétali, cette espèce de kiosque typique de l'architecture des villas réunionnaises. La sueur inonde le dos de Martial. Un instant, il a cru reconnaître Alex. Il devient fou. Cette fuite réveille tous ses démons. Il hésite à redémarrer. Ses tempes sont sur le point d'exploser. Il les enferme dans l'étau de ses mains moites. Il a pris sa décision. La Clio avance d'un mètre, fait gicler le gravillon rose de l'allée de la villa coloniale sous l'ombre du barreau, le portail, puis bondit en sens inverse.
« Papa, qu'est-ce que tu fais ?»
Martial ne répond pas. Il a soudain conscience qu'il fonçait droit dans la gueule du loup. Prévenus par la capitaine Purvis, les flics de Saint-Leu et de Saint-Paul allaient forcément se diriger vers Saint-Gilles. Leur premier réflexe serait de garer leur fourgonnette en travers de la route et de bloquer les accès sud et nord le long du littoral. Il ne lui reste qu'une chance. Passer par les hauts, rouler vers la montagne. Et ensuite...
»16h14.
Une voiture de location.
Crie Morez. Le flic accourt du parking derrière l'hôtel Alamanda. Il reprend une seconde son souffle et précise.
Une Clio grise. Impossible de la rater. Il y a un pare-soleil ITC Tropicard à l'avant et un autocollant du loueur sur la porte arrière.
Ok !
Hurle à son tour Aja dans son talkie-walkie. Tous les accès sont bloqués. Il ne peut pas aller loin. Vous me renforcez les barrages sur la route du littoral à la sortie de Saint-Gilles. La capitaine piétine la pelouse du jardin de l'hôtel en énumérant ses ordres. Les gendarmes de Saint-Gilles, à l'exception de Christos, lui emboîtent le pas comme une escouade de gardes du corps. Dans la piscine, certains touristes se rhabillent. D'autres demeurent immobiles. Seuls leurs coups bougent, coordonnés au balai des gendarmes pour ne rien rater du spectacle. La plupart des enfants se sont réfugiés sur les genoux de leurs parents, à l'exception d'un petit blond aux cheveux longs qui semble défier du regard l'autorité adulte. Aja croise un instant le regard du mini-surfeur. Elle se fiche soudain, puis porte le talkie-walkie à ses lèvres. « Non ! Changement de programme ! Vous restez en priorité sur les hauts ! Isindou, Mino, vous êtes toujours au bout de l'avenue de la mer ? Vous vous postez après le rond-point de la descente. La route du littoral est sous contrôle. Bélion va forcément se rabattre sur celle du Maïdo, soit pour pousser vers les cirques, soit pour rejoindre la route des Tamarins. Tenez-vous prêt, nom de Dieu, j'en mettrai ma main à couper. Il va forcément tenter de passer par les hauts. » Elle reprend son souffle, puis se force à parler d'une voix apaisée. « Pas de bavure, les garçons. Je sais qu'on a affaire à un double meurtrier, mais il y a une gosse assise sur la banquette arrière. »
16h15.
Papa, j'ai mal au cœur. Je ne mens pas cette fois. J'ai vraiment envie que papa s'arrête. Il roule n'importe comment. Il va finir par écraser quelqu'un ou rater un tournant. Je suis fatiguée. J'ai peur aussi. Je voudrais retourner à l'hôtel. Je voudrais retourner à la piscine. Je veux revoir maman. J'ai compris, je suis pas idiote avec mes ogres. Papa s'est sauvé juste quand les policiers sont arrivés, quand il a entendu les sirènes. Ça a un rapport avec maman, je m'en doute bien. Dans la piscine, les enfants racontaient qu'elle était morte. Je les ai éclaboussés. J'ai pas voulu pleurer devant eux. J'ai éclaté de rire, mais ils ont insisté. Ils passaient leurs pouces devant leur cou et me regardaient dans les yeux.
« C'est ton père qui l'a tué !»
J'ai retenu mes larmes. J'ai fermé ma gorge à double tour. J'ai juste laissé sortir une grimace.
« N'importe quoi! Comment tu le sais d'abord ?»«
C'est ma maman qui me l'a dit !»
Le plus grand, celui avec les cheveux longs, avait l'air sûr de lui. Enfin, il n'était pas si grand que ça. Mais peut-être que c'est vrai quand même. Comme si papa avait deviné mes pensées, il se retourne vers moi.
« Regarde, Sofa. Regarde la montagne juste en face de nous. » C'est là qu'on va, dans les nuages.
Rejoindre maman ? J'ai demandé. 16h16.
Martial ne répond rien. Il serpente dans les rues secondaires de l'Ermitage, allée des songes, des cocotiers, des dattiers. Toutes mènent à l'avenue de la mer. Il lui restera à franchir le rond-point au croisement de la N1 et de la D100. Ensuite, il sera libre. Il doit accélérer encore, rouler, passer avant qu'il ne bloque la route.
« Papa, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que maman est partie dans les nuages ?»«
Non, Sofa. Bien sûr que non. »«
Alors, papa, pourquoi tu... »«
Plus tard, Sofa. » Martial a haussé le ton. Il s'en veut immédiatement. Il n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive pas à cerner un doute, une impression de plus en plus tenace au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la mer. Il ne passera pas. Les flics communiquent par téléphone, en temps réel. Ils disposent forcément de la description de sa Clio et doivent déjà être postés aux principaux axes de communication à la sortie de Saint-Gilles, y compris la route des Hauts. La Clio cède le passage à une Toyota. Martial baisse à nouveau la vitre. Il entend distinctement des sirènes de police, à quelques blocs à peine.
« Papa, on rentre à l'hôtel ?»
Il se rend compte qu'il n'a aucune chance à ce jeu de cache-cache. Impossible de faire plus repérable que sa voiture de location. Les flics vont refermer tranquillement le filet sur lui. « Non, Sofa, non. Pas l'hôtel. Je vais te faire une surprise. » Il dit n'importe quoi pour que Sofa se taise, pour qu'il dispose du calme suffisant pour trouver une solution. Se garer ici ? Continuer à pied ? Ridicule. Les flics repéreraient la voiture. Avec Sofa, il ne ferait pas 100 mètres.
« J'ai pas envie d'une surprise, papa. » « Je veux retourner à l'hôtel. »
Sofa trépigne à l'arrière. Ses pieds tambourinent dans le siège de Martial.
« Je veux revoir maman. Tu m'écoutes ? Maman !»
Une nouvelle sirène traverse le lotissement, brève et stridente comme la corne d'un bateau. Martial doit trouver une issue pour rassurer Sofa, pour gagner du temps. Il ne peut pas se faire prendre. Tout serait perdu alors. Il n'a pas le droit d'échouer. Pour cela, il ne doit pas hésiter à sacrifier ce qui le retarde. « Je vais t'emmener voir quelque chose d'extraordinaire, Sofa. Le paradis, Sofa. Tu as déjà imaginé découvrir le paradis ?»